MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de radio MDM. Bonjour David Boreto.
Bonjour Jeannot.
C'est un plaisir d'attaquer cette année 2025 avec toi, puisque le tutoiement a été de rigueur. Alors on va parler cinéma et on va d'ores et déjà pouvoir peut-être te souhaiter nos meilleurs vœux, notamment par rapport à ce film que l'on pourra découvrir en avant-première du côté du cinéma Saint-Sevé jeudi et à Air-sur-Adour vendredi soir, sur une longue vie et pleine de belles aventures sur cette année 2025, David.
Merci beaucoup.
April in France. Est-ce que tu peux nous cadrer un petit peu le décor de cette aventure ?
C'est un film qui utilise la technique documentaire. Donc tout ce qui se passe dans le film s'est réellement passé. Mais c'est monté comme un film normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interview face caméra, rien de ce qu'on voit dans un documentaire habituel. On suit une petite fille de 5 ans qui s'appelle April, qui déménage en France, qui est ma fille. Et elle déménage au moment du premier confinement et elle tombe dans un appartement coincé à Paris. Et elle a qu'une envie, c'est de repartir à Londres, où elle est née. Et moi, je découvre la France aussi. Je suis né en France, mais j'ai grandi à Londres. Et je découvre, bon, pas grand-chose, hein, coincé dans un appartement. Et je lui dis que je suis d'accord pour repartir. Mais qu'avant, on va descendre dans les Landes, voir le village où vivaient son arrière-grand-père et mon grand-père, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais vu. Et que si ça ne nous plaît pas, après cet été-là, on rentre à Londres. Donc on descend à la Bastide d'Armagnac.
Parce que c'est de la Bastide d'Armagnac qu'il s'agit.
Exactement, où il est décédé en 2005. Et on découvre un village qui, à la sortie du confinement, il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Il pleut. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui ont encore peur et qui ne se risquent pas. Mais la petite va au cimetière sur la tombe de son arrière-grand-père et elle est persuadée qu'il va revenir à la vie. Elle pense qu'il dort et elle n'a pas d'amis et toutes les semaines elle commence à se rendre sur sa tombe et à l'attendre, à lui parler et du coup elle reste. Et en restant elle commence à rencontrer ses amis qui sont encore eux en vie et qui vont la prendre sous leur aile et lui montrer d'où elle vient, ses racines et lui permettre de s'ouvrir un peu plus aux autres et à la vie.
Une sorte de récit initiatique, je dirais, quelque chose de récit initiatique, parce qu'il y a la mort, évidemment, avec cet arrière-grand-père qu'elle va découvrir, et puis il y a tous ces personnages, ses amis, qu'elle va découvrir aussi. Et c'est plein de tout ça, c'est chargé de tout ça, David.
Tout à fait. Le challenge qu'on n'avait pas vu à l'écran pour moi, et c'était le but du film, c'était de faire un film avec... Elle a 4 ans et demi au début du tournage. Et je voulais montrer, tous les enfants passent en quelques semaines de leur monde d'enfants imaginaires où on croit, ça peut être le Père Noël, les licornes, tout ça, les fées, les sorcières, à une première confrontation du monde adulte. Et en quelques semaines, les adultes vous disent « mais ça n'existe pas ». Enfin, parfois le Père Noël c'est un peu plus tard, mais il y a quelqu'un qui va vous dire « non ». Ça ne se passe pas vraiment comme ça, les licornes, ça n'existe pas. Mais il y a cette confrontation où l'enfant est armé que de ses croyances d'enfant. Et c'est ce qu'on voit avec April. Quand elle est confrontée à la mort, elle croit qu'on dort. Il y a plein d'autres choses comme ça. Elle croit que, par exemple, les portes ne s'ouvrent que pour les adultes. Donc quand elle met la clé dans la porte, elle croit que la porte ne s'ouvre pas parce que la porte sait que c'est un enfant. Et tout est comme ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que... À la Bastide d'Armagnac, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un adulte qui ose dire à l'enfant que toutes ses croyances, ce n'est pas la réalité. Et donc, ça continue pendant des mois. Les adultes l'accompagnent l'enfant au cimetière pour parler à l'arrière-grand-père avec elle. Lui révèlent qu'eux-mêmes parlent à leur mort. Et on voit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais à ce moment-là, j'ai su qu'on avait un film, c'est que non seulement l'enfant grandit, et c'est initiatique pour l'enfant, mais on voit les adultes et les personnes âgées retourner dans son monde d'enfant à elles, et on voit le bien que ça leur fait.
Parce qu'il y a aussi, du côté de la Bastide d'Armagnac, on le sait, on y va assez régulièrement avec Radio MDM, tout un tas de personnages, de personnalités, avec un univers artistique, avec un univers aussi assez atypique, qui fait partie intégrante du décor de ce film.
Oui, alors moi c'était un des grands, c'est un de mes chevals de bataille. Il y a quelque chose qu'on voit pas souvent à l'écran dans ces villages ou quand on représente, par exemple, ces campagnes comme les Landes et que vous connaissez. Dans tous ces villages, il y a énormément de culture. Il y a toujours quelqu'un qui a un piano. Il y a, par exemple, il y a Alain qui est photographe, il y a Abélia qui a son piano avec tous ses amis qui chantent, qui vocalisent. Il y a tout ce monde culturel auquel l'enfant va être exposé pour la première fois. Elle est exposée pour la première fois à la littérature aussi. Quand elle demande qu'est-ce que ça veut dire d'être gascon, il y a un monsieur qui s'appelle Alain qui tous les jours la prend sur la place pour lui expliquer, pour lui lire Les Mousquetaires. C'est son premier livre. Et on voit l'appropriation par l'enfant du livre, de l'histoire. Mais je voulais absolument montrer non seulement la culture dans ces villages, mais aussi la découverte par l'enfant de la photographie, de la musique, de la littérature, et l'impact que ça a à 5 ans, quand on voit ses yeux s'ouvrir la première fois qu'elle touche un piano, ou qu'elle l'entend, ou qu'elle entend des professionnels jouer. Ça, c'était très très important pour moi, pour défendre ces idées-là.
Elle est assez incroyable, April, quand même. Je ne sais pas comment tu as vécu ça en l'accompagnant, parce que j'imagine que tu as été au fur et à mesure surpris aussi. Ça s'est adapté au fur et à mesure de l'histoire qui se fait dérouler, de la façon dont elle percevait tout cet univers. Elle est incroyable, April.
Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est ce confinement. On est resté coincé et il y a une confiance qui s'est instaurée où il y a un moment qui n'est pas dans le film où elle détruit l'appartement complètement à Paris, elle repeint les murs en rouge et la caméra tourne et je ne dis rien. Et vous savez, quand vous créez un précédent avec un enfant à cet âge-là, elle le sait, elle peut tout faire. Quand la caméra tourne, elle peut tout faire. Et elle ne s'est jamais sentie jugée à partir de ce moment-là. Elle s'est jamais sentie empêchée de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Donc elle dit tout ce qu'elle pense. Et elle n'est pas très différente d'autres enfants que je vois à la Bastide, par exemple. Elle a des amis là-bas qui sont venus voir le film avec elle pour la première fois. Et ils sont un peu tous pareils. Ils n'osent pas toujours tout dire. Mais quand ils sont ensemble, j'entends exactement les choses qu'on la voit dire à l'écran. Elle a une confiance avec les adultes, parce que je connaissais pas la Bastide, mais il se passe quelque chose d'assez étonnant à l'écran, auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'il n'y a personne qui la traite comme un enfant. Il n'y a personne qui lui parle comme un enfant, il lui parle d'égal à égal. Et quand l'enfant ne se sent pas jugé, quand il pense qu'il peut tout dire et qu'il est traité d'égal à égal par les adultes, elle se comporte comme une adulte. Elle peut dire des choses enfantine parfois, de son monde imaginaire, tout ça, mais elle a cette confiance en elle qui lui permet d'exprimer complètement ce qu'elle pense. Et il y a plein de choses qu'elle dit dans le film qui sont étonnantes, mais que j'ai entendu d'autres enfants depuis dire. Je fais plus attention maintenant. Mais c'est vraiment, je pense, la confiance qu'elle a dans les adultes qui sont autour d'elle. Et par rapport à la caméra et à son père qui est derrière, même si je n'interviens jamais dans le film, elle n'a jamais l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas dire ou pas faire.
Alors, ce film, il a déjà quelques aventures, hein, puisqu'il a, il a tourné un petit peu à travers la planète. Oui. Il a même été en Chine récemment, David.
Oui, il a été. Alors, il a commencé en novembre dernier aux États-Unis. Ouais. Et à Saint-Louis, il y a un monsieur qui l'a vu. Et on ne réalise pas à quel point il y a un attachement à la France à l'étranger. Hein. J'ai réalisé avec ce film, le fait qu'il y ait le mot France dans le titre, ça a attiré l'attention des gens qui aiment la France. Et à Saint-Louis, il y a un monsieur qui a vu le film. C'est passé dans un festival là-bas, juste après le candidat pour la France aux Oscars, ce qui nous a permis de nous faire remarquer un peu. Et puis après, ça a tourné dans une quinzaine de pays un peu partout. En Amérique latine, on a été en Europe de l'Est, en Arménie. Et puis on a été, le dernier festival qu'on a fait, c'est le plus gros. On a eu une première en Chine il y a 3 semaines. Et j'ai amené April pour la première fois. Je ne l'avais pas amené nulle part pour la tenir un peu éloignée de cette industrie du cinéma, parce qu'elle est quand même très jeune. Et je pensais que là-bas, ce serait tranquille et qu'on oublierait quand on rentrerait. Et ça a été l'hystérie complète. Il y avait beaucoup de très grands noms du cinéma français. Donc, des gens comme Luc Besson, Sophie Marceau, tout ça, était là cette semaine-là. Donc, on n'était pas du tout à l'autre bout du monde en pensant que il y avait un tapis rouge avec ces dames qui avaient des diamants, des robes du soir. Et il y avait April au milieu avec son film dans les Landes. Et les photographes dans tous les sens, les télés. Je pense que ça a été une très belle expérience pour elle. Le film a été très bien reçu. C'est très intéressant de voir comment un film sur les Landes et tourné dans le Gers peut être perçu là-bas. Et j'ai compris pourquoi il avait été aussi sélectionné pour jouer, parce que c'est tout un processus, on passe par un bureau de censure, tout ça. Il faut vraiment qu'il le veuille pour le projeter en Chine. Et il y avait deux choses qui les ont beaucoup, beaucoup touchés dans le film. La première, c'est la liberté de l'enfant. Je pense que leur éducation est très différente et de voir cet enfant qui s'épanouit en arrivant dans les Landes où tout le monde est bienveillant, tout le monde essaye de faire en sorte qu'elle grandisse heureuse. Ça leur a beaucoup, beaucoup parlé. C'est quelque chose dont les enfants ont l'impression de pas pouvoir bénéficier. Là-bas, ils sont un peu pressurés pour leurs études, leurs choses. Et l'autre chose, c'est le personnage d'Alain. Il y a un photographe qui a 80, 81 ans, qui la prend sous son aile et qui est une sorte de vieux sage pour eux, qui représente l'image de leurs grands-parents qui voient plus parce qu'ils ont dû bouger dans des villes. Nous, on était dans une petite ville où il y a quand même 10 millions d'habitants. Et tous les gens qui étaient là criaient son nom parce que pour eux, ça représentait ces personnes âgées qui peuvent plus voir dans leur village, qui verront plus mourir, ils peuvent plus retourner parce que c'est trop loin, parce que le travail les prend. Et cette transmission intergénérationnelle, ça les a énormément touchés. Il y avait des gens en larmes, il y avait des gens... C'était très, très touchant de voir ça. On oublie, en fait, qu'ici, c'est acquis, et que dans certains pays, comme là-bas, c'est quelque chose que, même si on veut, on ne peut plus avoir.
Tu as présenté ce film un petit peu à travers la planète, et puis à un moment ou à un autre, venu le temps de le présenter par chez nous en Gascogne.
Ah oui, alors là, c'était, j'ai eu très peur. Alors, j'ai pas été nerveux nulle part, sauf le 25 octobre, on a eu une première à Barbotan, les termes, et là, j'étais un peu terrorisé parce que vous avez dans la salle, on a rajouté quelques chaises, il y avait 200 personnes, et vous avez les gens qui viennent de. 20, 30, il y avait des gens qui venaient de Pau, de Dax, mais bon, grosso modo, vous avez des gens qui savent exactement ce qu'il y a à l'écran, qui voient tous les détails. Et j'avais peur que quelque chose soit mal reçu. Donc moi, je me suis mis derrière et j'étais à côté, je pense, du plus landais des landais. J'ai fait exprès. Et un monsieur avec son béret, qui avait les bras croisés, qui était prêt à en découdre un peu. Par exemple, mais il savait, je pense qu'ils sont fiers.
Ouais, bien sûr.
Les gens sont fiers. Mmh. Et donc, il attendait de voir ce qu'il allait avoir à l'écran. Et quand j'ai vu qu'il y avait des larmes qui coulaient un peu autour de 55 minutes, j'ai pensé qu'on avait ça, on serait OK. Mmh. Et on a eu une deuxième pour tester le bouche à oreille, pour être sûr que ça avait plu, parce que les gens peuvent être contents sur le moment. On a eu une deuxième séance le 22 novembre dans le même...
cinéma.
Dans le même cinéma, et c'est vrai que la gérante Béatrice de la salle m'a dit que sur les marchés, quand même, on en parlait beaucoup, que ça avait beaucoup, beaucoup plu, ça avait beaucoup touché, et on a eu de nouveau plus d'une centaine de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la deuxième séance. Ça avait été le cas à la première, et la deuxième, pareil, on était plein à craquer, et y a des gens qui ne sont pas rentrés deux fois, qui j'espère pourront venir à R, et ça s'est bien passé.
De l'importance donc de venir voir ce film à Prix d'une France du côté du cinéma Mediaset à Saint-Sauvé. Le rendez-vous, il est jeudi à partir de 20h. David.
Tout à fait.
Le lendemain, donc, le cinéma Galaxy, j'ai appris qu'il s'appelait comme ça du côté d'Arsoir, donc c'est à partir des 19h. On réserve, comment ça se passe, David, pour venir voir?
Alors, au Galaxy, vous pouvez réserver en ligne.
Ouais.
À Saint-Sevé, il faut prendre sa place. Si on ne peut pas réserver en ligne, il faut venir et prendre sa place sur place.
Mm-hmm. Alors, ça passera par Mirande aussi, on ira faire un petit tour du côté du Gers dans les jours à venir.
Ça passera à Mirande le 16 janvier à 20h et le 18 janvier, on a deux séances cette semaine-là, le 18 janvier samedi à 14h30. Et avant la séance de Mirande jeudi, vous aurez un pot de l'amitié. Il y a le lycée agricole qui vient faire des dégustations, on pourra boire un pot. Et le samedi, ce sera le pot après la séance.
Oh, mais que de pot, ça commence bien cette année, quoi. Tout ça évidemment en présence de David Boretto, réalisateur, pas que d'ailleurs, parce que... réalisateur, mais aussi participant de plein de choses, j'imagine, pour la production de ce film. Et
Oui, je suis d'habitude producteur, donc on fait des choses, des films de studio, des choses qui sont moins personnelles. Et ça, c'est un film que j'accompagne parce que c'est le plaisir, justement, dans le Sud-Ouest, en tout cas, toutes les avant-premières pour être avec le public.
Radical film, comme ça, ce sera dit, quoi.
Ouais. Ouais, c'est le nom de la société de production.
Et puis pour la suite, alors, ce film, qu'est-ce que tu envisages et comment ça va se passer pour la suite?
Alors moi, l'idéal, c'est de continuer les avant-premières parce que ce qu'on fait, la façon dont j'ai structuré le projet, c'est que je réinvestis en fait dans toutes les avant-premières l'argent qu'on gagne, puisqu'on en gagne quand les personnes viennent et qui payent leur place. On réinvestit tout ce qu'on gagne pour inviter par exemple des associations à venir ou des familles qui peuvent pas d'habitude venir au cinéma. Et ce qu'on fait dans chaque avant-première, c'est aussi ça, réunir toutes les associations dans les villes ou les villages où on va, qui ont un rapport avec le film. Ça peut être l'enfance, ça peut être la culture. Comme il y a beaucoup de, il y a un thème très fort sur l'empathie et s'occuper des autres. Toutes ces associations, quand on peut les inviter, quand elles sont là, par exemple, elles sont très présentes à Mirande. On les invite toutes, tous les gens qui travaillent, tous les bénévoles. Donc pour moi, c'est très important d'être là, de parler. Généralement, les discussions après durent très longtemps. On a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dans le film non plus, dont je peux parler. Des personnes, par exemple, l'arrière-grand-père d'April, c'est un peintre.
Oui. Après, voilà, aussi, parce que ça aussi, quand
voilà, c'est des choses qui apportent quand même.
Le surréalisme, je crois.
Oui, c'est un peintre. Toute ma famille, c'est le mouvement sur, enfin, mon arrière-grand-père était Paul Éluard, donc un des fondateurs du surréalisme. Mm-hmm. Il y a beaucoup de liens entre lui et le film. Des choses qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est des choses dont je peux parler après la séance. Gérard, c'est le dernier peintre, l'arrière-grand-père d'April, c'est le dernier peintre surréaliste en vie en 2005. Il est exposé en ce moment au Centre Pompidou, dans le cadre de l'exposition des 100 ans du surréalisme. La femme de Gérard, c'était le modèle de Charles Despiau. C'est la Odette qu'on voit dans les bustes. Donc il y a tout ça dont je parle. Pour moi, c'est très important pour les jeunes qui sont dans ces villages. Parce que je commence avec le film, comme on tourne aussi, à parler à beaucoup de jeunes. Comme il y a une société de production, il y en a plein qui viennent me voir, qui me disent « Moi, c'est mon rêve de faire ça. Mm-hmm. On peut faire le stage, comme on a discuté avant. Ouais, là, on peut faire le stage d'observation, on peut faire ça. » Il y en a aussi plein qui me disent qu'ils veulent être artistes, qui peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas l'argent, si c'est le cinéma, pour aller à la FEMIS, aller aux Beaux-Arts à Paris. Et pour moi, c'est très important dans les discussions après de montrer que ces gens, ils habitent à côté, en fait. Il n'y a pas de... pas aller aux Beaux-Arts. Et puis là, il y a une photo de lui, de Gérard avec Picasso en vacances. Il habite en bas de ta rue. Il n'y a pas de... Donc, ces discussions-là, s'engranger, qui commence à voir les tableaux, qui commence à voir son atelier derrière, qu'il n'a pas vu parce qu'il est derrière le jardin. C'est la petite maison qu'on voit dans le film. C'est là où il peignait. Ça, c'est très important d'avoir cette discussion. Comme ça, ils savent qu'il y a un précédent. Mmh. Ça a été fait, c'était en bas. Et comme c'était les peintres, souvent, comme Gérard, c'était très discret. En fait, on le connaît sur la place de la Bastide, en train de manger sa glace, râler sur les voitures qui passent trop vite, tout ça. Mais on ne se rend pas compte de lui en tant qu'artiste, ce qu'il a fait. Donc ça, c'est des choses dont je parle après la séance, et je pense qu'ils sont très importantes. C'est pour ça que j'accompagne le film aussi partout dans le Sud-Ouest, pour pouvoir parler avec les jeunes, les assos, et faire tout cette chose qu'on ne peut pas faire quand vous aurez une sortie nationale et que tout d'un coup le film se joue dans
un peu partout et le don d'ubiquité que
exactement. Et ça, c'est vraiment un plaisir énorme de faire ça avec ce film.
Ouais. Et donc, on risque fort d'en entendre encore beaucoup parler de ce film April in France dans les semaines et les mois à venir dans notre grand Sud-Ouest.
J'espère.
David.
J'espère.
Merci beaucoup, David, d'être venu nous présenter ce film. Il m'en peut en rendre rendez-vous, mais ça, on le rappellera tout au long des directs de Radio MDM. Merci, David.
Merci à vous. Thank you.
radio MDM, mais Fiat, c'est de la bonne.